Antonella, il faut quand même qu'on revienne sur cette question du rapport entre Descartes et la théologie, parce que il y a énormément d'études sur cette question. Et moi, quand même, ce qui me frappe, alors d'une certaine manière, un peu de l'extérieur, c'est quand même que Descartes, c'est le philosophe de la séparation des domaines, et particulièrement de la séparation du domaine de la théologie et du domaine de ce qui ressortit de la raison naturelle, enfin de la raison humaine. Et chez lui, la théologie, ça devient le registre, si j'ose dire, des vérités liées à la révélation, le domaine des dogmes, etc., de ce dont, justement, la raison naturelle n'a pas à douter, mais de ce sur quoi, non plus, elle n'a pas à se prononcer. Donc, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais d'un côté, on a ce philosophe en relation avec les problématiques théologiques, de l'autre côté, quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas tout mélanger, et puis, au milieu de tout ça, un Dieu qui est quand même omniprésent aussi dans la philosophie de Descartes.
Absolument, parce que le texte qu'on pourrait dire principal, du moins pour une certaine interprétation de Descartes, que sont les méditations de Descartes, donne un rôle absolument central à Dieu. Et c'est un sujet que, par exemple, l'épreuve d'existence de Dieu, c'était un sujet qui était traité par les théologiens, n'était pas traité par les philosophes, alors que Descartes se prononce sur cette question et il avance même des démonstrations qui ne sont pas exactement dans la même ligne des démonstrations traditionnelles, on pense notamment à saint Thomas. Il récupère certaines choses de Thomas, mais il a une manière de démontrer Dieu qui est totalement personnelle et qui est bien axée, articulée à sa philosophie. Et d'ailleurs, ce qu'on aperçoit pas énormément grâce aux méditations, mais qu'on sait très bien par la correspondance, il avait une idée totalement originale du rapport entre Dieu et les vérités. Parce que, contrairement à ce qu'on pense normalement, il croit que Dieu a créé même les soi-disant vérité éternelle, à savoir les règles de la mathématique, de la logique, etc. Donc, ce sont des vérités qui à présent sont totalement immuables, mais Dieu aurait pu faire autre chose. Et c'est une thèse profondément originale qui a eu d'ailleurs une postérité différente. Il y a des cartésiens qui ont apprécié, d'autres qui n'ont pas du tout apprécié, qui sont revenus sur cette thématique. Et donc finalement, Dieu, c'est aussi les garants des lois de la physique dans les principes. Donc c'est une notion, un concept, une présence constante dans la philosophie de Descartes, centrale, mais en même temps, cette séparation dont tu parlais est totalement acceptée par Descartes et mise en œuvre, parce que c'est une manière de parler de Dieu qui se passe des problématiques plus spécifiquement théologiques.
Oui, puis c'est vrai que pour quelqu'un qui a essayé de mettre d'une certaine façon hors jeu ces questions-là, alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a produit un discours sur Dieu, mais c'est aussi que quand on se place du côté de la façon dont sa philosophie a été reçue, il a plus qu'été obligé d'en tenir compte. C'est-à-dire qu'il a été au cœur de polémiques théologiques très, 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 très lourdes. La réception de son œuvre a été condamnée au nom, par exemple, de la difficulté qu'on trouvait à concilier dans sa philosophie l'explication qu'il donnait de la matière étendue et puis le dogme de l'Eucharistie, au point que son éditeur Claire Solier, par exemple, lorsqu'il publie ses lettres, décide de laisser de côté les lettres à Mélan sur l'Eucharistie, de surtout pas les mettre dans le volume, mais de les faire circuler dans des tout petits cercles par ailleurs, pour que bon, ça continue quand même à se diffuser. Et puis, moi, ce qui m'interpelle, comme on dit aujourd'hui, c'est aussi de voir comment Descartes, petit à petit, dans son travail, est amené à intégrer ces lectures potentielles de son travail. Et puis, ça se manifeste par exemple dans l'épître dédicatoire qu'il adresse aux théologiens de la Sorbonne lorsqu'il écrit les méditations, pour obtenir l'assentiment des théologiens, comme pour finalement donner une sorte de garantie supplémentaire, de garantie de persuasion, peut-être plus que de conviction, pour un certain lectorat, au travail qu'il propose. Et ça me frappe aussi de voir que ses interlocuteurs qui le suivaient avant ou qui auraient pu le suivre dans certains de ses textes antérieurs, comme Régis ou comme Gassendi, s'accrochent à cette oui. épître dédicatoire, ou bien mais en fait, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous besoin de vous compromettre d'abord dans les méditations en thématisant cette curieuse distinction réelle? Et pourquoi avez-vous besoin, si vous êtes si sûr de ce que vous enseignez, d'avoir l'aval des théologiens de la Sorbonne? Donc je trouve ça très intéressant de voir comment finalement il a été obligé de composer avec un certain réseau réel ou anticipé de polémiques dans l'écriture même, dans la progression même de son travail.
Oui, je crois que cette dimension polémique est centrale pour comprendre certaines positions de Descartes. Et je pense, par exemple, tu évoquais tout à l'heure la question de l'Eucharistie. Là aussi, la première explication qu'il a donnée de l'Eucharistie a été demandée par Arnaud. Arnaud était un lecteur qui n'était pas contraire à la philosophie de Descartes, mais quand même, c'est sur sa demande qu'il lance la première explication eucharistique. Et en général, Descartes ne cite pas la Bible, sinon pour répondre à des interlocuteurs qui disent « Mais alors, comment expliquer ça ? Mais alors, est-ce qu'il y a un problème justement avec l'Eucharistie ? Est-ce qu'il y a un problème avec l'absence de l'âme dans les bêtes ?» etc., etc. Et pour la question même de la séparation, c'est dans un texte polémique, c'est-à-dire la réponse à Régis dans les notes du programme Aquadam, où il traite de manière plus ample cette question. Et donc, c'est quelque chose qui est à la fois bien au centre de la philosophie de Descartes, mais qui est bien en surface, qui est thématisé pour répondre à des objecteurs potentiels ou réels.
Oui, ce que j'ai envie de aussi te demander, parce que par rapport à ton travail, c'est toi qui vas pouvoir m'éclairer sur ces questions, c'est finalement, qu'est-ce que ça devient, ça, ensuite, notamment chez les Néerlandais?
Alors, les contextes néerlandais sont très intéressants parce que c'est tout à fait différent des contextes des autres contextes nationaux, du contexte français ou encore plus du contexte italien. Parce que d'abord, les Pays-Bas est absolument importante parce que Descartes a passé presque la totalité de sa vie aux Pays-Bas. Donc le fait que sa philosophie se diffuse aux Pays-Bas, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal par rapport aux autres contextes, c'est que cette diffusion, c'est une diffusion académique. Du coup, ce sont souvent des théologiens qui s'approprient de la philosophie de Descartes. Il y a tout un courant de théologiens, Wittig, Burman, mais il y a énormément, Aidanus, des personnages comme ça, qui commencent à utiliser certaines notions de Descartes, notamment les démonstrations de l'existence de Dieu, la séparation de l'âme et du corps, pour l'intégrer à la théologie et à la théologie calviniste. Et évidemment, ça pose des problèmes. Par exemple, Descartes accusé de Descartes et les théologiens cartésiens sont accusés de pélagianisme parce que la notion de la chute n'est pas centrale dans la philosophie de Descartes.
C'est ce qu'il dit dans l'entretien avec Burman. D'ailleurs, c'est encore un autre texte tardif avec un statut un peu particulier. Ouais. Moi, enfin, la question que j'ai envie de me poser suite à notre échange, au fond, c'est pourrait se résumer par un paradoxe. Finalement, est-ce que ce Dieu dans la philosophie cartésienne, finalement, il n'est pas, alors c'est un peu polémique de le dire comme ça, mais est-ce qu'il n'a pas simplement une fonction épistémologique, garant des vérités, garant de la stabilité des lois du monde, etc. Est-ce que Pascal n'avait pas raison de dire que Descartes avait uniquement besoin de Dieu pour donner une petite chiquenaude, mettre le monde en mouvement, et puis qu'ensuite, finalement, l'homme pouvait très bien se débrouiller tout seul pour parvenir à la vérité, pour se diriger dans le monde?
Ben écoute, là, c'est vraiment la grande question, c'est-à-dire que ça touche au rapport entre la métaphysique et la physique de Descartes. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut, faire confiance, il faut croire à ce que Descartes dit. Et donc, il dit, dans les notes qu'on citait tout à l'heure, il y a une tripartition des domaines. Il y a la théologie, la métaphysique et la philosophie naturelle. Et la métaphysique, c'est quelque chose qui est à la fois qui traite de questions qui sont à la fois théologiques et philosophiques. Donc Dieu, l'immatérialité de l'âme, c'est vrai, ce sont des dogmes, mais ils ont un rôle absolument essentiel aussi dans la philosophie et dans cette philosophie spécifique de Descartes. Mmh. Peut-être que ce n'est pas les dieux bibliques, le dieu de Descartes, mais c'est une notion, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer dans sa philosophie. Et finalement, je crois que ce n'est pas bien placé de s'interroger sur la religiosité de Descartes. Oui. C'est une question de Descartes, mais aussi de n'importe quel philosophe. Oui. C'est une question qui, à mon avis, n'a pas vraiment un sens biographique, si tu veux. Et c'est une curiosité biographique, mais quand on parle de la pensée de quelqu'un, on a le droit de se passer, de répondre à cette question, mais juste d'observer la manière où certaines notions sont articulées au reste de la pensée.
Oui, et puis là, on voit, mais finalement, on peut faire ce constat pour un certain nombre de thèmes du cartésianisme. On voit à la fois comment on peut l'intégrer dans le vaste mouvement de la sécularisation, oui, et comment en même temps on ne peut absolument pas l'y restreindre. Oui.